Donc, bienvenue aux Oniriques pour cette conférence scénario du jeu de rôle au roman. Avec nous, une belle rochette de personnalités qui attendent de discourir avec joie.
Quoi?
Avec joie,
on est une brochette. Donc,
c'est toi, tu fais le poivron, moi je fais
le. C'est celui qu'on attend.
C'est là que tu vois l'état des mecs. Pépé, on est arrivé.
Hein?
C'est Ekel, c'est lui, Jekyll, c'est moi.
Et moi, je suis entre les deux.
Voilà, parce qu'il fallait un infirmier.
Allez, moi, de temps en temps, je suis Julien Pouget, modérateur. Je vais.
Bonjour Julien.
Bonjour Julien. Bonjour.
Et je vais, je vais bien faire ça, je laisse tout simplement auteur, écrivain, essayiste, penseur se présenter tout simplement.
On n'est pas dans la merde.
Après non. Les autres.
Non, non, fais ton boulot.
Ah bah on fait ton taf, t'es payé toi.
Non, 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 17h30.
Ah ouais, bah.
Non, bah moi j'ai le micro, alors je m'en fous. Alors bonjour, je suis John Lang, je suis mal rasé, je suis champion d'Europe de dessin de poulet.
Pas mal, ouais. Moi, je suis dessinateur frustré, Jean-Luc Bizien. J'ai fait du jeu de rôle dans une autre vie. Ouais. Et je suis là pour vous prouver qu'il y a une vie après le jeu de rôle. Le truc, c'est d'en sortir.
Je n'en suis jamais sorti.
T'as pas de vie.
Pierre Pevel, j'ai également fait du jeu de rôle dans une autre vie de Jean-Luc Bizien. J'en suis sorti également.
Il est sorti de ma vie, le salaud.
T'es aussi Pierre Pevel.
Ah oui.
Voilà pourquoi c'est lui qui aurait dû nous présenter.
Maintenant, il regrette, mais c'est trop tard.
C'est comme ça.
Et Jean-Philippe Jaworski qui vient donc de nous rejoindre.
Et qui est en retard.
Et qui a perdu son train. Et attends, tu as le droit à un verre. Mais sans eau.
Oh, ça m'énerve.
Oui, dans un groupe de jeux de rôle, il y a toujours celui qui fait des échecs en série. Donc ça, c'est moi. J'ai loupé ma table ronde hier soir. À cause de moi, elle est à portée d'une journée. Et puis là, j'arrive en retard. Donc je suis fidèle à moi-même.
On a juste voulu commencer un petit peu comme ça, mais on n'était pas inquiet.
Est-ce qu'on fait un truc ludique, genre on arrête avec les micros? Vous
bah
entendez,
oui. Vous entendez?
Oui, 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 on arrête avec les micros.
Vous êtes un gros tas de
ça nous arrange parce qu'en début d'après-midi, on en a fait une entière sans les micros. Donc si on en a besoin, ça veut dire qu'on s'est un peu fatigué pour rien tout à l'heure.
Ouais, non, non, mais c'est bon. De toute façon, ils vont nous entendre ou pas, on s'en fout.
Ça marche,
là, c'était du jeu de rôle, donc c'était un peu...
Elle a dit quoi? Ça marche aussi avec les filles. Mais on est arrivé.
Le gros avantage, c'est qu'on peut parler tous en même temps.
Et ça, c'est cool. Ou alors, on peut jouer avec le micro, c'est-à-dire on le met devant soi quand on a la parole. C'est pas mal, c'est ludique aussi.
Sinon, vous pouvez le mettre dans un des...
Non, mais ça sera trop loin, ça marchera pas.
Ouais, non.
Je prends le micro parce que on avait prévenu que ça n'allait pas être facile.
Il a signé, c'est pour en chier.
Là, c'est simple, là, va falloir y aller. Je fais, ok, ouais, pas de soucis. Bon, je me souhaite bon courage.
Nous aussi.
Non, mais on a un super public déjà, c'est bien.
Allez
ça marche, cabot,
ça marche tout seul.
Bien joué, toi. Et prenez des notes. Ça, c'est un pro. Tu vois.
Alors, je commence par qui?
Par eux.
Est-ce que vous avez des questions pour nos 5 intervenants?
Ah, c'est bon.
Le premier qui lève la main.
On commence par la fin, là. On
Ah oui, complètement. Non, mais j'ai décidé de transformer.
Est-ce qu'on va dire tout à l'heure vous inspire des questions maintenant?
Question là-bas.
Est-ce que Poc a amené sa boîte à Chantos?
Alors non, parce que la batterie est en panne. Non, non, j'ai pas amené parce que j'ai déjà une guitare et tout, ça fait beaucoup. Donc vous n'aurez pas d'insultes aujourd'hui.
Là, ils vont faire du d'un coup.
Donc, notre réflexion aujourd'hui, c'est du jeu de rôle au roman. Vaste question, s'il en est.
D'accord.
Qui commence? Jean-Philippe, est-ce que quel est votre lien avec le jeu de rôle par rapport au roman?
Aucun.
Questions ouvertes. Fais des questions où on peut répondre par oui ou par non, parce que sinon.
Bon,
oui.
Solidarité au cœur.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des relations. D'abord, j'ai lu des romans qui m'ont donné envie de jouer. Donc, j'ai fait pas mal de parties de jeux de rôle à partir de romans, bien sûr, les grands classiques. À partir
des romans de Moorcock sur Elric à partir, bien sûr, du Seigneur des Anneaux, à tel point d'ailleurs que j'ai fait mon propre système de jeu pour jouer au Seigneur des Anneaux parce que ce qui était dans le commerce ne me plaisait pas et puis que j'ai diffusé sur le net. D'autre part, je suis aussi parti dans le sens inverse, c'est-à-dire que je suis parti parfois de scénarios de jeux de rôle. Alors, les romans que j'ai écrits qui me permettent d'être parmi vous aujourd'hui, sont des romans en fait qui sont partis d'une conversation, enfin plutôt d'un troll sur un forum de jeux de rôle. Le vieux marronnier, pour ou contre Donjons et Dragons, avec les gens qui disent ouais, Donjons c'est super, qu'est-ce qu'on se marre, et puis les gens qui disent Donjons et Dragons c'est nul, on peut faire que du PMT.
Ça, c'est ceux qui ont vu le film.
C'est-à-dire, pour les non-initiés, donc.
Je te rappelle que Bilbo, c'est le docteur Watson.
Alors, si on fait de la journée, ouais. Tu reçois pas de points quand tu le places.
Alors que s'il avait été Benito ou Adolphe, il avait deux fois.
Si Bilbo était un nazi, t'es sauvé.
Deux fois, ça.
Et en fait, ce que j'ai commencé à écrire à l'origine, c'était des scénarios qui étaient destinés à être diffusés sur le net pour prouver qu'on pouvait faire autre chose que du porte-monstre trésor avec Donjons et Dragons. Je l'ai joué, des amis l'ont joué, certains d'entre eux m'ont dit « mais il y a matière à faire plus que des scénarios de jeux de rôle ». En définitive, ça m'a poussé à ensuite en faire nouvelle et romans. Voilà, donc les deux relations, je peux partir aussi bien des romans d'autrui pour jouer que partir de mes propres parties de jeux de rôle pour écrire. Messieurs.
Il vient de ruiner l'ambiance, hein.
Ouais. Non, il a dit des trucs vrais et tout, c'est bien.
Sur les porte-monstres trésors.
Ben, du point de vue scénaristique, vas-y. Le porte-monstre trésor, comment on peut tout simplement tuer ce, on va dire, cet enchaînement basique.
Alors moi j'essaie, t'enlèves le trésor. Du coup c'est vachement plus chiant, parce que porte-monstre, ah c'est la panique, et là hop t'as une histoire. Ouais, c'est comme ça que je fais, mais bon.
Attends, je vais prendre des notes parce qu'il y a des trucs, je crois que ça va être bouquin.
Ça va être bien, mais long.
Non, mais c'est Jean-Luc qui est prêt dans la file, alors je lui pique pas sa place.
Et après, si tu fais un deuxième bouquin, tu parles que du trésor. C'est plus chiant. Mais non, qu'est-ce qui m'a amené au jeu de rôle par rapport, ben, le fait que, enfin, moi j'ai un traumatisme d'enfance, si tu veux. Ma grand-mère me racontait des contes, genre comme tous les gamins. Mais ce qui me mettait en transe, c'était de voir que certains personnages étaient quand même des confinis. Non, attendez, temps mort. On se prend 2 minutes, là, je vous explique. Le petit chaperon rouge. C'est une mongolienne. Je vous la fais courte pour les gens qui n'ont jamais pratiqué le jeu de rôle, s'il y en a. Vous avez le droit de participer à une espèce de pièce de théâtre, de rêve organisé, enfin blablabla. On raconte tous la même histoire, on essaie de la faire évoluer. Mettez-vous 2 minutes dans la peau de cette gamine. Mamie fait ce qu'elle veut de sa vie, mais décide d'aller vivre au milieu de la forêt. Situation d'exposition. D'accord. Forêt dans laquelle il y a des loups. Et quelques aimables bûcherons qui sont payés à tailler du bois. Jusque-là, tout va bien. N'importe quel gamin aujourd'hui, face à cette situation, prend la route principale 2 jours et se fait accompagner par un adulte. Cette conne, il va à la tombée de la nuit en chantant avec un panier qui pue la galette dans un rayon de 50 mètres pour être certaine d'attirer tous les blaireaux du secteur. Et à la fin, on te dit que c'est bien parce que mamie s'est faite bouffer puis gerber par un truc bizarre qui a été ouvert à la main par un monstro dont on ne sait pas qu'à la fin, en vrai, il se casse avec la bioque. Et tout ça pour te dire que ça l'a grandi. Non, monsieur, dans le jeu de rôle, si on joue le petit chaperon rouge, on a le droit d'être moins con. Et ce qui est ultra motivant, c'est de jouer le loup et d'essayer de s'en sortir.
Ah oui, aussi, oui.
Tu peux faire des trucs avec la vie, enfin bon. Et voilà, donc ça, c'était bien. De dire qu'enfin, on pouvait prendre le pouvoir. Après, c'était quoi ta question ? Non. Après le passage à l'écriture, écoute, j'ai eu du pot, j'ai bossé avec des tas de gens différents, dont l'animal là-bas, sur des jeux plus ou moins conceptuels. Et j'en ai pondu un qui était le plus conceptuel de tous, et la critique qui revenait systématiquement dans Cassius Belli, que les moins de 20 ans, je vous parle d'une époque que vous n'avez pas pu connaître. La critique qui revenait, c'est vachement bien, mais putain, qu'est-ce que c'est littéraire. Ok, ben j'ai compris, je vais écrire des livres. C'est tout. Voilà. C'est pas vrai.
plus compliqué que ça. En fait, on t'apprenait, c'était une vraie école de l'écriture, c'était une vraie école. Parce qu'on était soi-disant des professionnels, mais c'était toujours à faire pour avant-hier, quand les mecs nous téléphonaient. Donc c'était une école de la réactivité, il fallait inventer des trucs qui se tiennent, et de préférence pas les écrire en patois grec. Donc on a appris, et puis voilà.
Ouais, c'était bien, sauf pour les grappes. Hein, bon, mais... et surtout, on était payé, et donc en fait, c'était déjà notre métier à l'époque. Et ce qui fait la différence entre peut-être une génération et une autre, c'est que nous, bêtement, au lieu d'être postier-écrivain, on a été écrivain-écrivain, ou rôliste-écrivain, ou enfin pas rôliste d'ailleurs, plutôt roller, ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire que nous, on jouait pas, on écrivait pour que les autres jouent, ouais. Et c'est très très facile de savoir qui sont les bons et qui sont les mauvais, parce que un bon scénario, il est joué, un mauvais scénario, il est jeté à la poubelle instantanément dès la deuxième ligne. Et les nôtres étaient plutôt joués que pas joués, que ce soit dans Cassius ou dans les prods des boîtes pour lesquelles on bossait. Je fais un aparté, mais...
Très bien.
Ouais, alors moi c'est un peu plus compliqué, parce que moi je ne me racontais pas de contes. Voilà.
T'es une enfance heureuse.
Ouais.
T'as donc aucune excuse pour être là, toi. T'as choisi.
Non, non, moi je voulais écrire, mais je savais pas quoi. Et puis j'ai découvert un jour les livres dont vous êtes le héros. Ça nous remonte à 80. Wow. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire 82 peut-être, mais non, ça doit être 3.
En France, ouais.
En France, donc j'ai suivi un petit peu ça et je me suis dit, oh, c'est bien, en plus c'est interactif et tout, on lit. Et puis là j'ai tout de suite eu envie d'en écrire. Sauf que, évidemment, j'étais nul parce que j'avais 12 ans et demi. Et après, là, juste au moment où je me disais, ouais, allez, je vais en écrire un avec mes potes, et ben, hop, ils ont sorti L'œil noir de chez Folio aussi. Où là, on s'est, alors là, on a découvert le jeu de rôle alors qu'on savait pas écrire du tout. Et le truc qui est revenu tout de suite, c'est que j'avais aucune envie de jouer les scénars qui étaient proposés, puisque moi, ça m'a donné tout de suite envie d'écrire. On a un univers, on a des, alors je dis héros parce que voilà, c'est les gens quand même avec qui j'ai joué, ce sont eux qui ont inspiré ce que j'écris maintenant. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs, les joueurs, ils ont un comportement à eux, quel que soit un mec qui joue un gentil, un mec qui joue un méchant, un mec qui joue un neutre, c'est un comportement de joueur. Et c'est ça que j'aime écrire parce que il n'a pas de destin tracé, etc. Et souvent, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi pour être gentil. D'ailleurs, voilà, il va dans les bois sauver sa grand-mère, alors que maintenant, il dirait, ah, ma grand-mère, elle a qu'à bouger son cul. Voilà. Et quand il veut être méchant, il fait n'importe quoi aussi. Hein, ça donne des trucs, des situations extraordinaires. Donc, moi, j'ai tout de suite eu envie d'écrire. Alors, voilà, du scénar. Alors, moi, j'ai beaucoup fait jouer les gens sur mes propres scénars, mais je les ai jamais trop partagés avant, il y a quelques années là. Donc j'avais pas de feedback en dehors de mes potes de ce que je faisais, et moi ça m'a quand même vachement donné envie d'écrire des trucs, parce que ce qu'on me proposait à lire m'intéressait pas. D'ailleurs ma prof de français, que je remercie pas, m'avait dit il ne faut pas lire ça parce que vous n'arriverez jamais à rien. Voilà, notamment la science-fiction et tout. Voilà, donc moi je suis arrivé là complètement par hasard, du coup, juste en faisant des trucs que j'avais envie de faire.
Et là tu fais passer l'avertissement, ne faites pas ça à la maison.
Moi c'est j'ai à peu près le même parcours que Gérard, donc j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'il a dit.
Il a rien dit.
C'était important.
Il a dit un truc important. Il a dit qu'on était payé pour faire ce qu'on faisait, et c'était une chance. Je me rends compte maintenant que c'est beaucoup plus difficile, puisque en fait le thème c'est du jeu de rôle au roman.
Tout à fait.
Bon, ou c'est l'inverse.
Et enquête de scénario. Si on reste sur donc cette question du scénario, de la narration, de la création d'histoire.
Alors je pense, quitte à en décevoir certains, je pense que en fait l'affiliation, là, le passage du jeu de rôle au roman, c'est pas du tout naturel, ou c'est même souvent pas une très très bonne idée en fait. C'est qu'un bouquin, c'est un produit littéraire, c'est un objet en soi, ça obéit à ses propres règles narratives, et c'est pas du tout les mêmes dans une partie de jeu de rôle en fait. Et une très bonne intrigue d'un bon scénar de jeu de rôle va pas forcément donner un bon roman, et même pas la bonne matière pour un roman, quoi. Ça peut, c'est vraiment quelque chose de très 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 différent. Ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est qu'en général, un bon scénar de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant dans l'histoire arrive aux joueurs. on va dire que ça arrive au héros. C'est loin d'être le cas dans un roman. Il peut se passer des tas de trucs sympas qui arrivent à d'autres personnes que les personnages principaux, que les héros. Il peut même, ça peut même être, le processus peut même être parfaitement inverse. C'est-à-dire que tu, il m'est déjà arrivé sur des mauvais, avec des mauvais scénarios, c'est à la fin le maître de jeu il t'explique ce qui s'est passé. C'est en général que la partie s'est mal passée, quoi. Le truc est arrivé, le méchant, enfin, on a sauvé le monde, sauf que c'est pas toi qui l'as fait, puis le maître de jeu t'explique ce qui s'est passé. Alors, soit c'est la partie qui était mauvaise, soit c'était le meneur, soit c'était le scénario, quoi. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon scénario de jeu de rôle, tout ce qui est intéressant arrive aux joueurs et est produit censément par eux, quoi. Ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe en arrière-plan, ce que font les adversaires dans la mesure où ça influe pas directement sur le comportement des personnages principaux, n'a finalement aucun intérêt. C'est, ça fait plaisir au maître de jeu qui assouvit ses pulsions littéraires en imaginant des tas de trucs, il a un monde vachement riche, etc. Mais ce qui est bien dans un scénar, dans une partie de jeu de rôle, c'est ce qui se passe à la table. Ce qui est dit, ce qui est joué, ce qui est imaginé, et le renversage dans le cendrier. Tout ce genre de trucs. C'est ça qui est intéressant dans une partie de jeu de rôle.
Tu peux rester dans l'auberge, j'ai juste la ruine.
Voilà. Et tu peux d'ailleurs ne pas jouer le scénario. Voilà. Ce qui prouve, tandis qu'en général, quand tu lis un bouquin, tu peux difficilement faire autre chose que lire le bouquin.
Sauf si tu lis à chaque fois la même page.
c'est con, ces livres électroniques, ça marche pas.
Tu tires l'ordre au dé.
Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on peut. Il est vrai que, bon, il y a des. Pour moi, qui sont en fait des contre-exemples, ça va être Jean-Luc ou Ange, Gérard, Anne, d'autres, moi. Donc, des personnes qui ont commencé à bosser professionnellement dans le jeu de rôle et qui sont devenus romanciers. Mais. C'est presque une coïncidence. Le point commun, c'est qu'on avait envie de vivre de notre imaginaire. Et donc, à un moment, le jeu de rôle permettait de le faire beaucoup plus commodément qu'écrire un bouquin. Faute de connexion, faute de connaissances, faute d'envie par moment même.
Ça a été ça de nos connexions. C'est-à-dire que si on reprend notre génération à nous, parce qu'il y a Jean-Luc, il y a PH, il y a nous, il y a Fabrice Collin, il y a Mathieu Gabory, c'est quand même un petit peu... on squatte un petit peu... Les éditeurs depuis ce temps-là, quoi. Et c'est toute la génération Cassius Belli avant que... D'ailleurs, on a tous arrêté, ça s'est pété la gueule après, donc il y a peut-être...
Oui, on est parti au bon moment.
Ça doit être ça.
Mais donc voilà, ouais. Tout, ce que je veux dire, c'est que c'est le... Alors, à l'évidence, l'auteur de jeux de rôle ou le romancier, c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer l'imaginaire, envie de raconter des histoires ou de les faire vivre, mais sont vraiment deux métiers très, 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 très différents. Ne serait-ce que par le fait que le romancier... produit son ouvrage, le produit de son travail est une œuvre finie. Le bouquin, c'est quelque chose qui est fini. Un scénario de jeu de rôle, c'est un outil, c'est un moyen. Parce que la vraie création, ça va être la partie. Et donc, il va y avoir des dizaines et des centaines, voire peut-être même des milliers de parties faites à partir de ce scénario-là. Mais ce qu'on en produit lorsqu'on est scénariste de jeu de rôle, c'est un outil, c'est quelque chose qui permet de créer autre chose. Le bouquin, non. Le bouquin, lui, il est fini. Alors, évidemment, le lecteur, arrive avec son imaginaire, se recréer, apporte quelque chose. Il y a toujours un rapport très personnel en général entre le lecteur et un bon bouquin, mais il n'empêche qu'on a quand même produit un truc qui se tient tout seul, quoi. Tandis que quand on crée un scénario de jeu de rôle, on en fait un outil, c'est le moyen de la partie, et ça demande d'une certaine manière un autre talent, c'est-à-dire que je pense que l'ego est moins flatté avec un scénario de jeu de rôle, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre au service de ce qui va devenir la partie. Il faut donner les moyens, les billes, l'arsenal au meneur de jeu pour produire la bonne partie et permettre à tous les joueurs de bien s'amuser autour de la table, quoi. En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui a fini, moi, par me frustrer. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un intermédiaire. Alors, c'est bien aussi, hein, parce que ça demande du talent, de l'effort, voire par moments une certaine abnégation. Mais au bout d'un moment, moi, ça ne me satisfaisait pas. J'avais envie de produire des trucs finis, quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je m'éclatais moins dans l'écriture de scénarios, mais toujours dans le jeu de rôle, plutôt dans la conception de suppléments, d'univers, de trucs où là, on produit quand même quelque chose d'assez fini, voilà, le background. Donc, mais au bout d'un moment, bah, ça me suffisait plus. Moi, je voulais vraiment produire des trucs qui soient. Je voulais produire une œuvre, pas avec au sens grandiloquent du terme, quoi. Mais le scénario, donc, c'est un bon outil. Et lorsqu'il est réussi, c'est un bon outil. Et c'est ce que doivent produire les bons auteurs de jeux de rôle, quoi. C'est un talent particulier qui n'a pas grand-chose à voir avec le talent de romancier.
À part qu'il y a des mots sur des pages.
Oui, alors on peut cumuler les deux, être un peu doué pour faire les deux, mais il y a également de beaux romanciers qui ont été de bons dramaturges, ou qui vont être bons comédiens, ou qui vont être des bons joueurs de tennis. On ne trouve pas forcément une relation. Il y en a guère plus, finalement, entre, à mon avis, entre le jeu de rôle et le roman. J'ai fini.
Je suis d'accord.
Et puis le truc qui est sympa, c'est que, comme tu disais, quand tu prends un scénar, déjà, tu commences déjà à douter à la moitié en disant à quel moment ils vont me le niquer.
Ah bah nous, on partait du principe qu'ils le niquent dès le début.
Ouais, tu fais alors là, ils vont faire ça. Ah oui, mais non. Et voilà, et donc ça, c'est le côté que j'aime bien, moi, le truc très jouer du destin à l'amour coq où tu crois être le dieu de la partie, mais en fait, non.
Ah oh, absolument. Et puis il faut éviter aussi les trucs genre boussole à aventure, quoi. Il faut absolument aller dans cette direction, donc tout y dirige. En général, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. En même temps, on peut aussi compter sur leur logique ou leur intelligence et de se dire qu'entre le précipice large sans pont et qui est dévoré par les flammes et au fond où tout le monde meurt, s'ils ont le choix entre un charmant sentier bien balisé, la prudence les dirigerait plutôt vers le sentier. Quoi.
Ah, erreur.
Ça ne marche pas toujours.
Tu ne fais pas assez jouer des barbares.
Ça ne marche pas toujours. Mais non, on peut quand même donc compter sur des réactions logiques et... une partie, c'est pas un truc totalement anarchique non plus. Les joueurs et les personnages ont des comportements en général qui sont au moins dans leur logique à eux. Quoi.
Tu fais pas assez là-dessus. Jouer des barbares.
Mais, c'est plus les joueurs, on parle plus des personnages, on parle des joueurs. Alors. Et puis aussi, on peut compter aussi sur le fait que une partie de jeu de rôle, ça peut être c'est quelque chose qui peut être très très agréable et qui consiste pas exclusivement dans saboter le scénario et tout foutre en l'air quoi.
Non, le pire c'est que des fois les gens qui le niquent, ils le font de bonne foi et en pensant bien faire.
Mais et c'est un des intérêts de la chose d'ailleurs, c'est de éventuellement de prendre un chemin de traverse et de compter sur cet outil de grande réactivité qui est un meneur de jeu, logiquement, qui doit avoir un peu plus de compétences qu'un ordinateur, un programme, aussi bien programmé soit-il. Donc oui, évidemment, c'est de pouvoir compter sur l'imaginaire et la logique du meneur qui permet de suivre.
Un bon scénar, des bons joueurs et un bon maître,
ça arrive.
Ça devient dur hein, quand même.
Ça arrive. Mais donc oui, ça rejoint bien ce que je dis, c'est que le bon scénario, il donne le plus de matos possible, ou le plus intelligemment possible pour permettre évidemment de recréer des trucs. Mais oui, c'est en aucun cas... Ni un guide de voyage, ni un chemin à suivre, c'est un outil, c'est un moyen, c'est plus un instrument qu'une partition en quelque sorte.
Pour rebondir sur ce que mes deux petits camarades viennent de dire, je suis assez d'accord avec eux d'ailleurs. Juste un bémol par rapport à ce que disait Pierre. Après, je sais pas comment vous l'avez vécu, ce que l'écriture de scénario de jeu de rôle m'a appris, c'est qu'il y avait certains mécanismes que tu pouvais mettre en place. Dans le rebondissement de l'action, dans comment accrocher. Tu savais que certains événements créaient quelque chose. Tu vois, tu pouvais faire naître la peur ou le rire ou ceci ou cela. Et que c'est des outils que nous, on s'est appropriés de façon empirique en écrivant des scénarios de jeux de rôle et en les voyant jouer.
Je te suis, mais je pense que ça, je l'ai plus appris en étant meneur de jeu et en jouant en direct, en ayant les réactions. Mmh. Parce que quand tu fais un jeu, par exemple, tu as créé un scénario qui va être une enquête policière. Mmh. Tu vas te retrouver avec, tu as 6 joueurs en face, c'est des potes, tu les connais bien, en principe, tu les estimes et tout. Tu sais que tu vas avoir 6 intelligences contre ton scénar, contre tes indices, contre trucs, quoi. Donc, tu as intérêt à faire des trucs qui sont bien vissés et je trouve que tu apprends plus sur ce dont tu parlais, en direct et en étant meneur de jeu, qu'en étant scénariste, qu'en étant auteur de jeu de rôle, en quelque sorte. Je pense que la confrontation à la réaction directe avec le public, finalement, c'est comme si tu avais 6 lecteurs qui étaient là en permanence et qui te disaient « Ah ouais, mais non, là, on n'y croit pas, là, on ne marche pas. Ça, oui, là, tu vois qu'ils ont donné dans le truc. » Donc là, par contre, ça m'en a appris beaucoup.
Tu vois, les mécanismes, je pense qu'on les a... En tout cas, on a fait nos gammes là-dedans.
Ouais.
Et ce que disait Gérard aussi, on est complètement à l'unisson là-dessus, c'est que c'est une génération de mecs, tous ceux que tu as cités là, qui sont passés par le jeu de rôle, mais en ayant toujours envie d'écrire, en fait. C'est-à-dire que c'était un moyen de commencer à publier dans un journal, chez des éditeurs de jeux de rôle, mais de commencer à vivre, c'est un grand mot à cette époque-là, parce qu'on gagnait, on était payé, mais on ne gagnait pas notre vie non plus, faut pas déconner. Ça permettait de se confronter à une technique professionnelle de l'écriture. C'est-à-dire que n'importe qui est capable d'écrire chez soi, se lever tous les matins, le faire et en faire un métier, c'est plus du tout la même chose.
il y a une vraie contrainte, il y a une vraie exigence.
Jugé par un supérieur hiérarchique qui va te le remettre dans la gueule.
Il faut accepter ça. Donc, je pense qu'on avait tous cette envie-là, ce rêve-là.
Bah, nous,
ça permettait.
Nous, on a commencé par la BD avant de passer au jeu de rôle. On a commencé par la BD, on s'est fait jeter, on est passé au jeu de rôle. On a changé de nom pour revenir à la BD, etc. Et en fait, notre premier roman, c'est un produit dérivé de, c'est un produit de promotion d'un jeu de rôle, puisque c'était le premier roman Scales, qui était juste l'idée, c'était juste Croc et Marc Nunes, le patron de Cirrose, qui nous disent les deux bozos, vous nous faites un roman pour lancer le jeu. Et nous, comme deux idiots, on fait OK.
Non, c'est pas comme deux idiots. Réponse qu'on faisait tout le temps à l'époque.
Oui, c'est ça. C'est
que dès qu'on nous demandait est-ce que tu peux. Oui, le mec avait même pas le temps de finir sa phrase.
Voilà. Et parce que, ça ne nous était pas trop venu à l'idée. Deux, on n'avait pas peur. Quoi. Bah, on va faire un roman. Quoi.
Résumé les années 80. Allô, c'est Pierre Rosenthal. J'ai besoin d'un scénar pour un mentière. Ok.
Facile.
Non, mais je t'ai pas dit quel jeu, mon fou.
Bah, ça va.
Ouais, on s'en fout. Voilà. Tu mets le titre.
Et effectivement, on s'est dit que c'était faisable après, donc on a continué. Et puis.
Pour en tout cas exercice d'écriture, mais pas que, heureusement, le jeu de rôle. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une thèse très très intéressante sur le livre univers, sur le roman univers d'une Frank Herbert, Hyperion, Dan Simmons.
La thèse de Genfort ou de Laurent Genfort.
J'ai appelé.
Ouais, ça doit être lui.
Qui justement aborde un petit peu la question jeu de rôle. Donc. J'aimerais aborder la question de l'univers, la création de l'univers jeu de rôle et la création de l'univers de roman. Parce que donc les livres univers, c'est des romans, souvent des sagas, qui construisent un univers de A à Z, même si parfois on n'a même pas affaire à ça. Et j'aimerais poser la question donc, sur la création d'univers entre donc, ce livre univers ou l'univers d'un roman et l'univers d'un jeu de rôle. Qu'est-ce qui rapproche, qu'est-ce qui les différencie et comment on les aborde de nouveau.
Je crois que c'est beaucoup plus complexe. Quand tu fais un jeu de rôle, parce que tu as un support, tu as des cartes, tu as des plans, tu as des tas de choses comme ça, et qu'il faut que ce soit cohérent. Parce que c'est immédiat, quand tu te penches sur un univers avec une logique interne et des cartes, il y a un moment donné où ça peut paraître complètement grotesque ou fonctionner. Dans un bouquin, tu peux tricher. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je vais te donner un exemple qui est assez extraordinaire, Le Secret de J, toute la série, ils ont voulu l'adapter en jeu de rôle. Tous les mecs avaient trippé sur les bouquins, trouvaient ça formidable et ça avait l'air hyper cohérent. Et au moment de faire le plan du monde, ils se sont aperçus que c'était juste infaisable. Le bouquin fonctionnait. Mais donc ça marche dans un sens et pas forcément dans l'autre. Et en plus, je crois qu'on est franco-français, donc en bon franchouillard, on est toujours un peu des merdes. Et contrairement aux anglo-saxons qui ont cette culture de... Tolkien, c'est quand même une espèce de grand maniaque qui te fait traverser. Quand il te fait traverser un verger, il faut qu'il file des noms aux arbres et des prénoms à toutes les feuilles, tu vois. 190 pages pour arriver au poney fringant, les enfants, ça va pas. Le mec est pas bien. Et moi, je veux balancer le bouquin, enfin la pièce, il me dit t'es con, c'est là que ça démarre, j'en pouvais plus. Tu vois. Il y a ce côté-là aussi. Il y a un moment donné où on va faire dans l'efficacité. Et dans un roman, si t'as un
Bilbo.
Mais Bilbo, c'est Watson.
Voilà. Bref.
Et y a, tu peux tricher entre guillemets, ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi et que tu n'as pas travaillé en amont cette cohérence là, mais tu vas, c'est un peu le paradoxe, tu vas, alors après je vais peut-être me planter, mais tu vas me dire, quand tu fais un jeu de rôle, tu donnes effectivement tous les outils pour que les gens deviennent les personnages. Quand tu écris un bouquin, tu dois d'abord t'intéresser à l'humain, donc créer des personnages. Et c'est ce paradoxe là. Donc si tes personnages sont suffisamment forts en roman, tu peux quasiment faire toute ta vallée. Parce qu'on va s'attacher à eux, parce qu'on va s'identifier à eux ou pas, parce qu'on va les aimer ou les haïr, et donc on va les suivre. Tandis que dans le jeu de rôle, comme tu prends le pouvoir et que c'est toi le personnage, tu as envie que ce qu'on te raconte soit vraiment, devienne réel à tes yeux et que ça puisse prendre corps. C'est deux démarches qui sont quasiment antagonistes. Et c'est là que t'as beaucoup de romanciers qui auraient adoré faire du jeu de rôle et je pense qu'ils seraient incapables de faire un scénar. Dans l'autre sens, ça fonctionne plus parce que justement, on a appris des trucs. Et que l'essentiel il est là.
C'est vrai, hein, la primauté du personnage dans la construction du roman. Ceci dit, moi j'ai le sentiment que dans la construction du personnage, il peut y avoir des mécanismes ludiques qui sont vraiment présents dans le jeu de rôle. Ce qui m'y fait penser, c'est que j'ai retrouvé chez un certain nombre d'écrivains archi-classiques, absolument pas fantasy ou SF, des petits indices qui montraient qu'ils avaient abordé la composition du personnage comme nous, on pourrait aborder la création d'un personnage. L'indice le plus net, c'est chez un auteur qui pourtant a vraiment strictement rien d'un auteur de fantasy, c'est chez Sartre, qui dit que dans son autobiographie, que sa vocation de la littérature lui est venue du fait qu'enfant, il se prenait pour Pardaillan. Il était Pardaillan, il voulait être Pardaillan, c'est-à-dire le héros de Cape et d'Épée des romans de Michel Zébaco. Et il avait un petit problème, Poulou, c'est son petit nom, parce qu'il était petit, il avait un gros strabisme, et par conséquent, confronté aux autres enfants, il se rendait bien compte qu'il n'était pas Pardaillan. On le laissait de côté, on ne voulait pas jouer avec lui, etc. Et là, il s'est investi dans son enfance, dans la création de personnages. À défaut d'être Pardaillan, il allait être l'auteur de l'équivalent de Pardaillan. Mais ça lui servait toujours à investir un personnage. Alors, il n'avait pas le moyen du jeu, mais il se comportait vraiment comme un rôliste, quoi. Il créait un personnage qui pouvait jouer par le biais de la plume. Alors, chez Sartre, c'est net dans son enfance. Alors ensuite, il a renié ça, il a dit que c'était une imposture, que c'était pas ça la littérature, etc. Mais j'en vois des traces chez d'autres auteurs. Beaumarchais, quand il écrit ses pièces, il dit qu'il écrit sous la dictée de ses personnages.
Mmh. Ah bah oui, mais ça c'est...
Il prend de la drogue aussi, peut-être.
C'est ça, oui. Non, mais c'est une évidence. Oui, les personnages, ils sont dans ta tête, ils parlent tous avec des voix différentes.
Mais c'est parlant, quoi. Et on se retrouve en situation de jeu, pour le coup. Alors, il y a d'autres auteurs. Donc, je pense que dans la création du personnage, même chez l'homme de lettres qui ne fait absolument pas du jeu de rôle et qui ne connaît pas ce que c'est, il peut y avoir des mécanismes créatifs qui sont proches de ceux du jeu de rôle.
Je pense qu'on a tous été confrontés aussi à... ce personnage au départ qui est un second couteau et qui prend un peu le pouvoir, oui. Qui s'impose et qui monte en force. Non ?
Je sais pas, moi en général il meurt.
Quand ils font chier, ils meurent.
Mais moi, pour bon, c'est ce que tu disais, en fait, sur l'univers lui-même, pas sur le personnage, en fait, je travaille en même temps sur le roman et le jeu de rôle. Et effectivement, tu te rends compte à quel point travailler pour le jeu de rôle. C'est quand tu parlais de construire un univers de A à Z, c'est pas vrai, parce que c'est jamais A à Z. Parce que toi, tu penses avoir tout fait, et en fait, quand tu lâches des joueurs, alors là, tu te rends compte de tout ce que tu as oublié. Quoi. Genre, tu dis, ouais, vous pouvez jouer plein de trucs, vous pouvez aller. Et là, le mec, il fait, ouais, mais là, ah merde! Alors, ouais, effectivement, dans
joueur,
ces montagnes.
C'est le mec qui, au fond de la piscine, commence à creuser, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Et là, tu crois avoir écrit tout ce qu'il faut et tout, mais en fait, non, tu te rends compte que tu as fait 10%. Alors, moi, c'est pour ça que le plus gros de mon boulot, moi, c'est d'écrire pour mon jeu de rôle gratuit. Parce que, à chaque fois que je parle d'un truc dans un roman, comme je travaille en même temps sur le roman, le jeu de rôle et tout, je place des bouts de l'un dans l'autre, et le jeu de rôle, je me rends compte, il est 10 fois plus gros que ce que j'écris, en fait. Parce que quand je parle d'une ville, bah, je mets un peu comme Tolkien, du coup, quand je parle d'une ville, bah, il y a des noms de rues, je sais où sont les tavernes, etc. Mais ça, les joueurs en ont besoin. Parce que tu ne dis pas, dans ta ville, il y a une rue. C'est quoi ma ville?
Vous rentrez dans une auberge et voilà.
Voilà. Vous rentrez dans une auberge. Oui, mais comment elle s'appelle? Et comment s'appelle le patron? Alors là, tu dis ah merde. Alors sans aller aussi loin, quand tu veux filer à, je vais dire donner à manger aux joueurs, parce que quand t'as beaucoup de joueurs, alors quand c'est vrai que quand on jouait avec une table de 6, bon, voilà, tu sais que c'est toi qui les fais jouer, faut travailler un peu. Mais quand t'as des milliers de joueurs. Tous qui sont en train de faire des parties différentes, c'est un boulot de malade, quoi. Et là, tu rentres dans la construction d'univers. Et l'avantage, moi, ça m'aide énormément parce que je travaille tellement là-dessus que quand j'écris mon bouquin, je me pose jamais de questions. Parce que je dis, quand un tel parle d'un truc, je sais où c'est, etc. Et si je sais pas, je l'ajoute. Et ça me fait des cross-références. Et moi, je travaille comme ça, un peu comme une construction d'univers 3D, en fait. Et puis bon, après j'en replace un peu là où je veux, mais c'est les joueurs et le jeu de rôle, ça apporte énormément sur le côté structuré du travail que tu n'es effectivement pas du tout obligé d'avoir dans le roman. Et d'ailleurs là je le vois encore plus parce que comme je travaille sur une série en animation avec des scénaristes qui eux viennent du milieu de l'audiovisuel qui est bien pire que les gens qui sont dans le roman. Parce qu'eux, ils n'obéissent à aucune règle et ils ne sont absolument pas structurés. Et je leur casse les pieds, mais à longueur de journée. Parce que le mec, vous l'avez remarqué quand vous regardez des films américains, notamment, on ne se soucie jamais d'aucun détail dans ce qui est
genre déplacement, etc. Les mecs, ils sont là, le lendemain, ils sont là, etc. Ça, dans le cinéma, c'est courant. Alors, quand on travaille sur un univers structuré avec des scénaristes de l'audiovisuel, c'est horrible. Parce que le mec, il dit, bon, alors là, ils sont là, puis là, ils sont là. Je fais, mais non, ils sont à pied, il y a 100 km. Ah, mais tu penses comme ça, toi?
Mais parce qu'ils se
Le joueur pense comme ça, en tout cas. Je fais, moi, quand je regarde un truc, ça me choque. Donc, les joueurs, les gens pour qui j'écris, ça va les choquer. Voilà. Et ça, c'est vraiment super perturbant. Et là, tu te rends compte, quand tu regardes les films, tu comprends pourquoi c'est n'importe quoi. Parce que quand tu n'as pas la base de structure, un minimum, d'avoir fait des gens, jouer des gens dans un truc où ça doit tenir debout, parce que. Enfin, il y a des jeux où tu fais n'importe quoi, mais ils sont connus pour ça. Toon, par exemple.
Ouais, ça, c'est bien.
Voilà. Bon, quand tu le sais, tu vas pour faire n'importe quoi. Mais comme je disais pour le donjon à Hellbuck, bon, d'accord, c'est n'importe quoi, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire n'importe comment. C'est ce que j'aurais dit aux gens de la série. Donc là, maintenant, ils ont compris, ça se passe bien. Mais c'est très difficile de, à chaque fois, devoir remettre en question des trucs basiques que n'importe quel joueur, tu lui dis non, tu peux pas entrer par cette porte, il va te dire pourquoi. Le scénariste, il va dire, non, tu ne peux pas entrer par cette porte. Scénariste de l'audiovisuel. Hein. Scénariste de jeu de rôle, il va faire, ah merde, il faut que je trouve un moyen pour qu'il ne puisse pas rentrer par cette porte. Voilà, donc, c'est tout un chemin de pensée, le jeu de rôle. Moi, ça aide beaucoup à travailler là-dessus. Et du coup, quand tu écris un roman qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, comme j'ai fait pour le bouclier obscur, tu te rends compte que tu as ces chemins de pensée de te dire, putain, est-ce que ça c'est logique? Est-ce qu'un tel doit être là? Est-ce que machin doit faire ça, etc.
Ces câblages-là, tu les acquiers et tu les gardes. Hein, donc,
ouais, ouais. Mais je pense que ça doit dépendre des gens, parce qu'il y en a apparemment, ils s'en soucient pas trop. Mais quand t'as l'habitude, après, ça aide vachement à développer un chemin de pensée où tu fais pas quelque chose sans réfléchir aux conséquences, aux causes, etc. Ça peut aider.
Pierre, sur la question?
À savoir.
Univers jeu de rôle, univers de rôle.
Bah non, moi je vraiment, je peux que abonder dans le sens de ce qui a déjà été dit. J'en veux pour exemple là, sur le prochain bouquin, c'est un nouvel univers, c'est un univers imaginaire, c'est plus un univers historique. Et j'ai développé une carte de cet univers pour régler. Déjà pour éviter de foutre un royaume à l'est dans un chapitre et qu'il se barre à l'ouest dans le chapitre suivant, parce que quand il se passe 250 pages entre les deux, on peut faire ce genre d'erreur, quoi. Le gars qui s'amusait à essayer de faire les cartes de l'univers de Gemmell pour Druss, il s'arrache encore les cheveux, il est obligé de faire des choix, quoi. Parce que Gemmell dit des trucs qui sont en totale contradiction d'un bouquin à l'autre, quoi. Donc pour éviter ça, je m'étais fait une carte, et puis moi c'est plus facile, puis ensuite ça permet de calculer les temps de déplacement, parce que j'y apporte de l'importance.
Ouais, aussi. Ouais.
J'ai pas envie que les mecs ils fassent. Alors de temps en temps je triche un petit peu pour si ça peut m'arranger, mais je veux pas faire de trucs qui deviennent aberrants, quoi. Ça me gêne. Même si paradoxalement je pense que je suis un de ceux que ça fait. Ça ennuie le plus, parce que le lecteur, s'il est pris par le fil de l'histoire et dans l'action, par le roman, il ne va pas forcément le voir. C'est le lecteur qui s'arrête vraiment et qui commence à prendre des mesures. Mais il y en a des comme ça.
Oui, c'est ceux qui t'envoient des mails.
Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les malades de ce genre-là qui
alors,
disent,
j'ai calculé.
C'est possible. Est-ce que la lieu de tel pays, c'est la même lieu que d'autres? Parce que c'est la seule solution qui expliquerait que... Mais oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas la même lieu. je le sais. Et donc j'avais cette carte. Et puis au bout d'un moment, lorsqu'on a, là il n'y a pas longtemps, on discute du produit du bouquin, quoi. On en est à la fabrication du livre, et on dit, est-ce qu'on met une carte, quoi. Ça ne coûte pas particulièrement cher, on demande à un illustrateur de la faire, on fait ça bien, est-ce qu'on fait une carte? Et on en a parlé, et finalement j'ai décidé que non. Parce que certes, ma carte elle est établie, elle est vraie, elle est là, et j'en bouge plus trop, c'est-à-dire que je ne vais rien en retrancher. Par contre, j'ai peut-être envie d'y rajouter des trucs. Et j'ai pas envie de me retrouver piégé par mon propre univers, c'est-à-dire d'avoir besoin d'une ville au bon endroit dans le tome 2 ou dans le tome 3, et pas pouvoir l'y mettre, parce que le malade qui mesure les lieux, c'est le même qui revient et qui dit « Comment ça se fait que la ville-là, elle y était pas ?» Alors tu peux lui dire « Bah la carte n'était pas assez précise. » Ouais, mais dans ce cas, mais la ville, elle était déjà là, elle. Oui, alors comment ça se fait que dans le tome 2, quand ils ont fait ce chemin-là, ils sont pas passés par cette ville?
Des rôlistes ! Des rôlistes !
Donc, tu as dit, bah, je sais pas, achète-toi une vie déjà.
Le genre de mec qui ne serait jamais laissé bouffer par les loups, tu vois. Mais la
Parce qu'il avait la carte.
La différence fondamentale entre le scénariste de jeu de rôle ou l'auteur de jeu de rôle et puis l'auteur de roman, c'est que l'auteur de roman, il a des lecteurs qui peuvent être super emballés et donc heureux d'avoir pris son bouquin et l'avoir lu. Des fois un peu triste parce qu'ils ont été déçus ou qu'ils n'ont pas du tout aimé, mais en tout cas, aucun de ceux-là jamais vient de prendre la tête avec des points de règle.
Hein? Ouais.
Non, mais on a tous des dingues. Sinon, ce serait triste, la vie.
Ouais. Mais c'est, et pour ce qui est des déplacements, par contre, c'est le fait de devoir les respecter. Je ne sais pas si toi, ça t'a parfois posé un problème du point de vue de construction de l'histoire. C'est-à-dire que moi, je me suis surtout trouvé face à des difficultés. Je comprends les mecs de l'audiovisuel qui ne s'emmerdent pas avec ça parce que ça peut nuire au rythme de l'intrigue. Ouais. Et j'ai souvent, moi, été emmerdé, surtout avec les, par exemple, avec les Lames du Cardinal, qui se passe vraiment en France et j'ai beau faire ce que je veux. Bah, Versailles, il y a telle distance de Paris, ouais. Qu'il faut bien. Je peux pas inventer ça, quoi.
Ou alors, il faut vachement bien plier la carte.
Voilà, c'est ça. Je peux pas le réinventer comme je veux. Et par moments, je me trouvais éventuellement avec un problème de rythme parce que. C'est assez difficile si dans la construction de votre histoire, vous avez deux scènes, vous avez envie qu'elles se suivent parce qu'elles vont avoir un impact vachement fort, mais qu'entre les deux, physiquement, il y a 3 semaines de bourrin ou de carrosse, tout d'un coup, l'enchaînement va être vachement moins percutant. Même si vous faites une ellipse et vous dites, et 3 semaines plus tard, il... Trop tard, tu l'as dit, 3 semaines plus tard, il. On n'a plus l'impact de la scène, de 2 scènes qui vont suivre. Et donc, parfois, j'étais obligé de... Comme je pouvais pas tricher avec les durées, je déplaçais des scènes, quoi. Je me disais, plutôt qu'arriver là, elle va arriver là. Donc, il faut que je m'arrange pour que... Donc, parfois, ça pose un problème à ce niveau-là, au niveau du rythme de l'histoire, parce que, et là, on vit dans notre monde de maintenant, et une histoire, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle fonce. Là, maintenant, le lecteur, le spectateur, le mec qui va au cinéma, qui regarde des séries télé, qui lit la BD... Il peut plus, il se satisfait plus d'un rythme de narration comme il y a ne serait-ce que 10 ans, quoi. Regardez de très 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 bonnes séries, des séries qu'on adore. Je sais pas, NYPD Blue par exemple, qu'on a adoré Gérard et moi, qui série culte. Elle est toujours aussi bien, mais on la voit maintenant. Elle était révolutionnaire à l'époque, et là on se dit putain mais c'est lent, quoi. Et ensuite on se dit waouh, il y a une intrigue A, il y a une intrigue B, il y a pas d'intrigue C. Vu que c'est arnaque. Enfin, et notre goût à tous a changé, a évolué. On veut des trucs qui vont vite. Ça ne veut pas dire que c'est torché, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais le rythme de narration, le rythme narratif, c'est vraiment accéléré. Donc ça, on est obligé de le faire. Enfin, parce que moi, je considère que mes concurrents, ce n'est pas mes collègues auteurs de romans. Mes concurrents, c'est le cinéma, c'est la télé. C'est contre eux que je me bagarre. C'est à eux que j'arrache des lecteurs. Il faut que je sois conscient de ça. En plus, moi, ça ne me coûte pas particulièrement. Je suis très, 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 très amateur de séries télé. J'adore ce rythme narratif qu'on a maintenant. Et c'est, en même temps, cette densité dans la narration qui est exceptionnelle. Parce que les bonnes séries, elles vont vite, mais elles en racontent toujours autant, voire beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. Donc, c'est prodigieux. Donc, il faut faire pareil en bouquin. Et parfois, la géographie est chiante pour ça, parce qu'elle s'entête à être lente. C'est que... Donc il faut parfois ruser ou alors s'en foutre. Il y a deux écoles, quoi. Moi, je suis de l'école qui s'emmerde un peu.
Chaloup galop, ça va toujours à la vitesse d'un chaloup galop.
Voilà, tu peux pas faire mieux, quoi.
Mais avec Peter Jackson, l'auberge du poney fringant, c'est au bout d'un quart d'heure. Pas loin.
Oh, ouais.
Mais d'ailleurs, il a entièrement raison.
Mais tu peux pas envoyer les hobbits en catapulte depuis chez eux jusqu'au poney fringant.
Ouais, mais tu peux faire du lancer de nain.
Ça, c'est dans 10 ans. Ouais. Peut-être doit se faire ça une catapulte.
La difficulté sur la géographie qui soulève Pierre, c'est aussi pour moi une difficulté au niveau du jeu de rôle. Moi j'ai eu tendance à resserrer, en faisant du jeu de rôle historique pour le coup, à resserrer mes scénarios sur de courtes périodes et sur des espaces géographiques finalement bref. Alors ce qui s'y prête bien, c'est ce qui se passe dans une ville où il y a beaucoup de personnages dans un espace qui est très réduit et donc qui permet de ne pas avoir le problème du temps. Ce qui s'y prête bien, c'est l'intrigue resserrée pour des raisons, alors à cause d'un siège, à cause d'un banquet, enfin pour un événement très très précis qui permet de fixer les personnages et de ne pas avoir à gérer ce problème. Donc là, je trouve que le problème, il est valable aussi bien pour l'écriture romanesque que pour l'écriture scénaristique.
Je pense que c'est un truc quand même sur aussi sur ce qui fait un bon scénario de jeu de rôle, une bonne partie en particulier, parce que c'est surtout ça qui compte moins que le bon scénar, c'est la bonne partie. Quoi. Et c'est aussi pour ça que parfois ça donne pas toujours de très bons romans lorsqu'on contente purement de retranscrire. C'est ne serait-ce que calculer le temps qui est consacré au combat dans une partie de jeu de rôle, en principe. La plupart des jeux où il y a quand même pas mal de conflits, le temps qui est passé, mais physiquement, à régler des combats. Quoi. Si vous respectiez ce pourcentage, ou ce pourcentage, cette répartition en nombre de pages sur un bouquin, ça, on arriverait à des trucs aberrants. Quoi.
Malade, ouais.
Sans compter qu'on n'aurait même plus le vocabulaire. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas assez d'outils dans la langue pour faire des combats qui se déroulent sur 50 pages, sur des bouquins de 120.
Des combats JRTM.
Voilà. Système ICE. Donc. Et au cours d'une partie de jeu de rôle, moi j'en ai joué beaucoup, mais on s'est éclaté à faire des tas de combats, et même un bête combat de table de rencontre qui nourrit justement un voyage un peu long, on a pu s'amuser beaucoup à le faire. Par contre, comme matière romanesque, c'est d'une pauvreté ahurissante, quoi.
Si tu rencontres une table.
Voilà, en plus.
Parce que... Je vais reprendre le début de la conversation. T'as pas assez de barbares dans tes lecteurs.
C'est peut-être ça. Mais j'ai relu un bouquin c'est Milady qui l'a fait. C'est tiré du jeu God of War. Et donc, je sais pas si vous connaissez le jeu de vidéo God of War. C'est un jeu de baston. Quoi. C'est un jeu d'action pur, petit peu de plateforme. Mais le mec, il passe son temps trancher des gars, quoi. Et le mec qui a écrit le bouquin, parce que moi je l'ai relu pour la cohérence, comme je connaissais bien le jeu, et en fait le mec il a été assez cash, quoi. C'est qu'il raconte vraiment en gros le premier jeu sorti, God of War 1, avec pratiquement tous les combats qui s'y déroulent, quoi. Donc honnêtement, d'un point de vue du boulot de romancier, merde, chapeau, quoi. Moi, j'aurais pas pu, quoi. Parce qu'il trouve quand même des moyens de remettre ça, c'est assez dynamique. Mais avec tout son talent et tous les efforts visiblement qu'il a fait, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est que le mec, il arrive, il passe d'un niveau à l'autre, d'un plateau à l'autre, d'un écran à l'autre, et blum, il a des gens, et ensuite, il tue des gens, et ensuite, il se bagarre, et ensuite, il affronte des gens, et ensuite, tu dis, oh, d'accord, ok. Donc, ça prouve bien que, et ça, c'est presque valable pour une partie de jeu de rôle aussi. D'autant plus que, Autant le scénario peut être génial, l'ambiance peut être fabuleuse, mais le joueur ne tripe jamais et ne se sent jamais autant en danger que quand il y a un combat, quand il y a un vrai enjeu qui est la perte de son personnage, parce qu'à ce moment-là, c'est la perte de lui-même, quoi. Si on joue bien, il est dedans, quoi. Donc les combats sont surévalués d'un point de vue dramatique, romanesque. Ça passe sur une table de jeu de rôle. Ça fonctionne absolument pas en roman, quoi. Ou alors c'est vraiment très 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 pauvre. Et j'ai eu, pour mon malheur, l'occasion de lire pas mal de romans qui étaient vraiment des parties racontées, quoi. Et on voyait que le maître de jeu, en plus, il voulait faire visiblement plaisir à tous ses à tous ses joueurs, donc tout le monde avait son petit moment de gloire, etc. C'était long, c'était ennuyeux, parce que ces combats que j'imaginais parfaitement passionnants et très agréables à faire, à vivre. Une fois qu'ils étaient racontés et qu'ils étaient décrits, ils n'avaient aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. C'est donc méfiez-vous, quoi. Les bonnes parties, ça donne pas forcément un bon matériau de jeu, de roman.
Ouais, sinon nous on fuit beaucoup, en fait.
Aussi.
Général, ça va plus vite.
Et puis au niveau vocabulaire, c'est bien. Hein.
Ouais, ouais. Ah oui, puis la langue française, il y a tellement de mots pour dire que tu fuis. C'est génial. Ça doit être historique.
Il y a défense élastique, repli, repli pensé.
C'est ça. Ouais.
Position préparée à l'avance.
C'est ça.
Ouais. Et ben, comme les barbares, on va revenir au début de la conversation. Est-ce que vous avez des questions pour nos auteurs?
Au revoir.
Qui ne concerne pas les chiantos.
Je voudrais savoir si vous connaissiez, si ça vous a inspiré pour des parties de jeux de rôle. Je pense particulièrement au parce que j'en ai entendu parler sur internet. Calon, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui.
Je voudrais savoir si ça vous avait inspiré justement.
Ah ouais, mais en plus, c'est marqué dans mon site depuis longtemps.
J'avais lu ça.
Alors, sécurité.
Non, alors ça c'est vraiment un truc dans les genres, parce que sur le net, il y a beaucoup d'écrivains qui ont posté des trucs depuis la nuit des temps. Beaucoup où tu vas voir et puis tu fais. Et alors, le mec qui a posté les aventures de Calonne, c'est un truc extraordinaire. C'est que dès les trois premières lignes du truc, tu décroches pas. C'était vraiment une démystification de la fantaisie pour tous les gens comme moi qui en avaient marre de lire justement des aventures avec des héros qui n'étaient pas Pratchett ou qui n'étaient pas Moorcock. Voilà. Et en fait, voilà, c'est un. Alors, lui, il a fait quand même pas mal de jeux de rôle, hein, mais d'après ce que je me souviens. Mais vraiment, c'était vraiment un truc sur le net qui était qui moi m'a pas mal donné envie de faire ce que je fais. Quoi. Et en plus, il y avait beaucoup de matière. Malheureusement, il n'a jamais été publié, même si j'ai essayé un peu de travailler avec lui pour que ça se fasse. Mais c'était bon, y a des trucs qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais donc oui, pour ta question, oui. Il y a d'autres questions?
Oh, j'en ai peut-être une. Si t'as aucun. Pour sortir un petit peu de la narration, de ce thème-là, tout à l'heure, vous aviez évoqué que Casus Belli, à l'époque, eh ben, c'était plutôt le bon endroit pour faire des choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut écrire du jeu de rôle, est-ce que j'utilisais un mot un peu moche, le marché a changé, l'ouverture pour des nouveaux.
Il n'y a plus de marché.
Voilà, des nouveaux auteurs, enfin. De jeux de rôle pour vos scénaristes ou enfin quelle est la différence entre votre époque et aujourd'hui?
De l'argent.
De l'argent. Il y avait plus d'argent.
Il n'y a pas que ça. Casus c'était tout seul, ouais. Quasiment. Ouais. Et d'une. Et de deux, je te rappelle qu'à l'époque, on n'avait que le Minitel, quoi. Eh les gars,
ouais.
Ça fait.
Ouais,
ça
mais moi tout. J'ai jamais rien placé dans Casus.
Non mais tu vois, ça change la donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'avais pas de moyens d'échanger, de moyens immédiats. De récupérer des images, de la doc, des choses comme ça, des idées partout, ben, tu allais gentiment à ta petite boutique acheter un supplément ou tu allais au bar tabac du coin acheter ton Casus pour avoir du matos.
Ah oui, bien sûr que ça a changé.
Comme il n'y avait qu'un seul espace, le joueur, entre guillemets, était bien discipliné et bien consommateur. Et aujourd'hui, ben, y a eu déjà deux générations de rôlistes qui sont arrivées et qui ont appris les bases du boulot. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un mec dans les boutiques. Faut arrêter, ou alors ils viennent juste regarder ce qui se fait histoire de pas mourir idiot, mais ils sont tout à fait capables de produire eux-mêmes. Donc aujourd'hui, le marché n'existe plus. Le jeu de rôle, c'est un. Il y a toujours autant de rôlistes, je crois, sinon plus, sauf que bah, tu les vois plus, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils sont organisés, ils sont capables de produire eux-mêmes leurs trucs.
En boutique, c'est flagrant parce que de notre temps, si je puis dire, on avait la proportion, on va dire, il y avait 90% des étagères qui étaient jeux de rôle, le reste c'était jeux de plateau et un petit peu quelques rares jeux de cartes. La proportion s'est inversée. Hein. C'est vraiment. Et c'est pas plus mal parce que ce qui est assez amusant, c'est que, en particulier dans les jeux de cartes, les jeux un peu apéritifs, les trucs qui se jouent vite, les règles s'expliquent rapidement et qui sont parfois très très bien parce que des règles simples n'impliquent pas forcément un jeu simple. Il y a une invention, il y a une multiplicité des thèmes qui sont abordés qu'on trouvait avant dans le jeu de rôle. Quoi. On a vraiment connu une époque où il y avait des nouveautés tous les mois, plusieurs nouveautés de jeux de rôle par mois, et on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient nous faire. Un jeu sur les gangsters, un jeu sur les mayas, un jeu sur ceci, un jeu sur cela. On avait ça, quoi, vraiment.
Ah non, pas tant.
On dit other role-playing game. Il y avait ce bouillonnement. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de jeux qui étaient parfois assez... qui étaient vendus comme des jeux, mais qui étaient parfois assez simplistes. Hein, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Il y avait quand même, parfois, sur ce qui était les pages de background, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Quoi. Mais on s'en foutait plus ou moins parce qu'on se disait « Ah ouais, bah, du coup, on va pouvoir jouer à des cow-boys, on va pouvoir faire ceci et cela. » Et ça, je le retrouve maintenant dans les jeux de plateau, dans les jeux de cartes, où vraiment, on joue tout, alors aussi bien des trucs qui se passent dans la Renaissance italienne qu'à Venise, que on joue les barons du rail.
On joue des trains, oui, c'est ce que j'allais dire.
Je suis un train. Donc c'est, j'ai l'impression comme si la ferveur, pas forcément, la ferveur, la création s'était déplacée, avait occupé un autre terrain, quoi. C'est comme ça.
Je suis un cultivateur de haricots aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si
oui, on joue des nains de jardin, quoi. Donc c'est très bien. Mais là, pour le coup, ça a vraiment changé. La chance qu'on a eue, c'est qu'on pouvait quand même
on en vivait très mal, mais on pouvait quand même gratter des sous ici ou là, quoi. Maintenant, des types qui vivent du jeu de rôle, des éditeurs, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup, il y en a beaucoup moins. Non seulement en termes de marque, si je puis dire, mais au sein des structures. Moi, je vois ce qu'était Cirrose, enfin Asmodée à l'époque, au niveau du jeu de rôle, le nombre d'employés qu'il y avait, de salariés, plus ensuite les auteurs freelance qui étaient attachés à Asmodée, par rapport à maintenant ce qui se fait, par exemple, chez une très bonne boîte, Sans Détour, quoi. C'est rien à voir. Sans Détour, ils doivent être trois permanents. C'est vraiment plus du tout les mêmes effectifs, parce qu'il n'y a plus les mêmes moyens, quoi. Il y a plus les mêmes moyens.
Et pour poser la même question sur le roman, l'écriture en général, bon, c'est un peu plus connu, entre guillemets. Est-ce qu'on a de la place pour l'écriture fantasy aujourd'hui sur, pareil, j'utilise encore le mot moche, marché.
Sur le marché, a priori, les ventes sont effondrées en l'espace de 20 ans. Hein.
Ouais, même les 5 dernières années, c'est une cata abominable. Ouais.
Surtout les 5 dernières années.
Un roman à succès dans les années 80, c'était un roman qui faisait facilement les 100 000 exemplaires. De nos jours, quelques milliers d'exemplaires, c'est pas mal. Donc, il y a vraiment un effondrement au niveau des ventes. Hein. Alors, expliquer à quoi c'est dû.
Est-ce que ça suit la courbe générale de gens qui lisent plus? C'est ça qu'il faut se poser la question.
Il reste des gros lecteurs.
Est-ce que ça a rapport à ce qu'on fait nous, ou est-ce que ça a rapport au fait que les gens lisent plus?
Non, il y a plusieurs facteurs.
C'est hyper complexe.
Il y a plusieurs facteurs. Un, le livre est de plus en plus cher. C'est-à-dire que si tu repasses le prix d'un roman aujourd'hui en francs, tu te demandes si tu l'aurais acheté en francs. C'est juste pas possible.
À 150
c'est devenu n'importe quoi. Alors bon, les éditeurs vont te raconter que le prix du papier, ça c'est vrai, a été augmenté de 200% il y a quelques années. Ok, mais ça justifie pas le prix. Deuxièmement, alors tu veux qu'on parle de marché, on va parler de choses qui fâchent. Les mecs qui sont là, c'est le serpent qui se mord la queue en France. C'est-à-dire que il faut savoir qu'aujourd'hui, un éditeur, pardon si je quitte complètement le sujet du débat, un éditeur gagne plus de pognon aujourd'hui en distribuant des livres qu'en vendant les siens. Ok ? Je vous donne un exemple qui parle. Gallimard gagne aujourd'hui plus d'argent en distribuant des petites boîtes et en distribuant ses propres bouquins qu'en vendant les siens. Je vous la fais courte. Quand vous mettez un bouquin dans un camion pour un distributeur qui généralement appartient, Gallimard a son propre système de distribution, vous avez Hachette d'un côté, Editis de l'autre, c'est les trois gros, hein. On va simplifier. Le distributeur prend 6% du prix du bouquin pour l'amener jusqu'au libraire et reprend 6% pour le ramener, éventuellement il prend 3,5% pour le stocker. On est d'accord ? Maintenant je te donne un exemple qui tue, je ne vais pas te donner les noms, mais c'est une boîte spécialisée dans la littérature jeunesse qui marche très 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 bien. Et un jour, le directeur des ventes se fait appeler par un gars de chez Hachette qui lui dit « Non, c'est vachement bien, ça marche bien vos bouquins. Ça marche quand même vachement bien. Hein. » Le gars croit que c'est un compliment. En fait, non, c'est un reproche. Et en gros, à mot couvert, on lui explique que c'est embêtant parce que ses livres se vendent. Ce qui veut dire que le distributeur ne prend que les 6% à l'aller et qu'il n'y a pas de retour et pas de stockage. Donc, on lui glisse dans la conversation que si au milieu de toute cette production, puisqu'il gagne de l'argent, il pouvait nous glisser 2-3 bouses. De façon à ce que ça revienne avec les 6% et les 3,5%, on resterait amis. Ça, c'est la logique aujourd'hui.
Et c'est le pouvoir au mec qu'on est camion.
Attendez, on est bien d'accord. Okay. Donc, à partir du moment où c'est... finalement, on a de moins en moins d'éditeurs. Les éditeurs sur la place parisienne, c'est la peau de chagrin. Aujourd'hui, tu as des gestionnaires, des gens qui font des camemberts avec des parts de marché et tout, blablabla, et qui sont payés par le distributeur. C'est là le nerf de la guerre. Tu es dans une logique où un libraire aujourd'hui... Moi, le libraire, ce qui me fait mal chez lui, c'est son dos. Parce qu'en fait, c'est un soutier, le mec, aujourd'hui. Il reçoit 180 nouveaux romans par mois. Donc, il reçoit des caisses entières de bouquins. Je te la fais courte aussi, je suis allé à Provins une fois, et on rencontre des amis, et ils ont des mots, mais on me demande un album. Tu penses bien que je ne vais pas me balader tout le temps avec des bouquins. Donc, bêtement, je vais à la libraire de Provins, qui me dit qu'effectivement, il a peut-être des albums dans le fond. Ah ben, attendez, ils sont dans les cartons. Donc, je le suis en réserve. Et je te jure que c'est vrai, il y a 20 cartons empilés qui ne sont pas ouverts. Il dit, alors attendez, vos bouquins, ils doivent être dans celui-là. Donc il sort un carton, il l'ouvre, il me file des bouquins, je l'achète, je suis content, je vais les offrir. Et puis avant de partir, je lui dis, mais les autres cartons. Il dit, mais vous avez regardé ma librairie? Ça, c'est ce que je viens de recevoir dans la semaine. J'ai pas la place pour les sortir. Si je les sors, je ne suis même pas sûr de les vendre. Il va falloir que je les remette dans les cartons pour les renvoyer. Alors là, ils attendent. On est dans cette logique-là aujourd'hui. Donc, ça devient très, très compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait moins de lecteurs. Je pense qu'il y a toujours autant de lecteurs, qu'il y a un pouvoir d'achat qui s'effondre, que le livre est de plus en plus cher. Et qu'en plus, il y a encore 10-15 ans en arrière, le libraire, il avait le temps de mettre le nez dans les bouquins. Pas de tous les lire, mais au moins de mettre le nez, donc d'être d'avoir un vrai pouvoir de conseil. Aujourd'hui, comment tu veux, il est submergé par les bouquins. Donc, on est en train de changer petit à petit les règles du jeu et ça devient de plus en plus compliqué d'en vivre, tout simplement, mais à tous les niveaux. Parce que... Puis, il y a autre chose aussi. Il y a un dernier truc. C'est pas pour enfoncer mes petits camarades, les éditeurs, quoique. On n'est pas anglo-saxon. Tu vois, je suis intimement persuadé qu'en France, une fraîchement divorcée avec 3 enfants, chômeuse en fin de droit, une histoire de petit sorcier à lunettes, avait une chance de publier. Sans connaître le mec qui connaît le mec qui connaît le mec qui connaît le mec. Les anglo-saxons vont te laisser ta chance en prenant parce que c'est une bonne idée, on va y aller. En France, bah écoute, ça fait 5 ans qu'on bouffe du vampire à la laine fraîche. Réfléchissez, et avant on bouffait du barbare depuis 10 ans ou du dragon. Vous n'avez pas un dragon, vous êtes dans votre truc là, vous n'avez pas un dragon. Aujourd'hui, il faut faire du vampire, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis en thriller. Si t'as pas un nom qui avec une consonance de marque d'Esquimaux, ça passe pas en ce moment, tu vois. Faut que ça se passe sur 600 pages et dans un pays où il fait froid. Le problème, c'est qu'ils ont pas on n'est pas un pays de découvreurs, on est un pays de réseau. Donc, c'est très très compliqué. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, un type qui arrive avec de la fantaisie, ben, on est en queue de comète, quoi. Donc, il faut vraiment avoir l'idée qui tue pour avoir une petite chance d'eux, sans aucune garantie, hélas, même si c'est un chef-d'œuvre, que ça marche. Parce que ton bouquin, il sera noyé au milieu des 180 autres bouquins sortis ce mois-là. Quand j'ai démarré il y a 17 ans, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, l'espérance de vie, Gérard, c'était quoi un bouquin ? 3 mois ? Ouais, 3 mois, aujourd'hui, c'est même pas 3 semaines. Je te parle d'espérance de vie, hein, pas de lisibilité. C'est-à-dire que ton bouquin arrive dans une librairie et de toute façon, il est poussé physiquement par ceux qui arrivent. Donc, tu es d'abord en facial, avec un peu de bol dans la vitrine, sinon sur les tables, et puis après, tu vas vite sur la tranche, et puis après, tu retournes dans les cartons, si tant est que tu en es sorti. Voilà, je viens de ruiner l'ambiance, bonne journée. Mais c'est la réalité, et ça, je crois pas qu'il y ait moins de lecteurs, il y a trop de bouquins.
Non, mais le coup des camions, c'est vrai, parce que on est tous en train de se dire, mais c'est marrant, parce que dans l'édition, c'est quand même les mecs qui ont des camions qui sont bien, en fait. Parce que déjà, tu peux rien faire sans te dire, merde, mais qui va le distribuer ? Parce que imprimer un bouquin, t'appelles un gars, salut, je veux imprimer un bouquin, hop, une semaine après, t'as un bouquin. Par contre, distribuer, ça va être, alors il faut aller à un tel réseau qui n'est pas copain avec celui-là, donc si tu veux que celui-là te distribue, il ne faut pas parler à celui-là. En même temps, il faut parler à lui parce qu'il connaît un tel, qu'il connaît machin. Et là, si tu ne connais rien, voilà, tu n'es pas distribué en fait. Donc tes bouquins, tu les as, ils sont chez toi. Et là, tu fais, ah, j'ai des livres. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses parce que moi, je fais aussi des disques et c'est pareil en fait. Des disques, si tu ne connais pas les mecs qui ont des camions, eh ben, moi, c'est pour ça que je distribue des disques en librairie, les disques d'une Nalband, et on ne les distribue pas dans les circuits disquaires. Parce que les mecs, ils font, mais c'est qui eux, une Nalband ? C'est bizarre. Musique rollistique chaotique. Non, on n'a pas de caisse pour ça. Au revoir. Eh, mais on a des gens qui veulent les acheter. On s'en fout. C'est exactement ça.
Ouais. Le problème, c'est le on s'en fout, en fait.
Ouais, non, mais parce que même, en plus, il y a des tas de gens qui pleurent pour avoir des acheteurs. Bon, nous, on fait un truc, on y passe des années et tout, on est content. Les gens, ils attendent notre disque. Et là, on dit, bon, vous voulez pas distribuer notre disque ? Bon, voilà, après, tu dis, il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Hein, il y en a, tu leur donnes du boulot. Non, mais il va falloir qu'on les mette dans les camions et tout. Donc, c'est hyper galère. Voilà. On est à la merci des mecs qui ont des camions.
Non, faut juste que je m'en aille parce que j'ai une autre table ronde il y a 5 minutes.
On est arrivé sur l'heure. Donc, eh ben, un grand merci à tous nos intervenants.
Et bonne soirée. Et au concert pour ceux qui viennent.
Ouais, on n'a pas de place.
Ah oui, ben. Tant pis.
Faut revenir.